Vous allez être à tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 14. Alors, c'est vrai que la marche de la promenade de Pierre sur l'eau, c'est un passage qui est très, très bien connu. Ça apparaît aussi dans l'Évangile de Jean, dans l'Évangile de Marc. On pourrait faire trois applications différentes ou même de multiples applications sur ce passage. Et ce matin, bien, le Seigneur me met à cœur de vous en partager une application. Et j'espère que vous serez richement béni et parce qu'on verra à travers ce passage. On a lu donc le texte et il est bon de se rappeler que lorsque nous lisons la Bible, on y découvre une liste de promenades inoubliables. La première promenade qui nous frappe, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 8. C'était le soir, le texte biblique nous dit, c'était le soir quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Première promenade qu'on découvre dans la parole de Dieu, c'est la promenade du Seigneur dans le jardin. Cependant, de façon générale, Dieu invite les hommes et les femmes à se promener avec lui. Rappelez-vous la longue promenade que le Seigneur fit faire aux Israélites à travers la mer Rouge lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte et que cette promenade s'est poursuivie pendant 40 ans dans le désert. Rappelez-vous la promenade triomphale qu'il a fait entreprendre à Josué autour de la ville de Jéricho pendant 7 jours. Mais c'est probablement l'apôtre Pierre qui effectua la promenade la plus inoubliable de toutes lorsqu'il fut invité par Jésus à descendre de la barque dans laquelle il se trouvait pour se promener sur l'eau, pour marcher sur l'eau. Alors, on a vu ce matin en début de culte, on a fait cette lecture dans Matthieu chapitre 14. On a eu les versets 22 à 33. Et le contexte, eh bien, Jésus venait de nourrir 5000 personnes. Et je pense que le texte est vraiment bien placé parce qu'il va parler à Pierre, il va lui dire « homme de peu de foi ». Et on va voir aussi le comportement des 11 autres dans la barque. Et pourtant, ce qui s'était produit juste avant la tempête, ça aurait dû amener les apôtres, ça aurait dû augmenter la mesure de foi des apôtres, puisque le contexte nous dit qu'il venait de nourrir 5000 personnes. Avec le petit peu qu'il y avait, il y avait une multiplication des pains et de la nourriture, et Jésus avait nourri. Donc, ça laissait s'entendre qu'il n'y avait rien d'impossible à Dieu. Et pourtant, ici, eh bien, Matthieu place tout de suite après, il nous rapporte ce qui s'est passé. Jean, la même chose, Marc, la même chose. Et à notre grand étonnement, eh bien, c'est comme si c'était rien passé avant la tempête pour les apôtres. Le lac de Galilée, on sait que le lac de Galilée était très bien connu pour ses tempêtes soudaines et violentes, et c'est effectivement ce que vivront les apôtres lors de cette traversée. Il est écrit que la barque, verset 24, était à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Et tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Mais quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent tous bouleversés, le texte nous dit qu'ils ont été bouleversés par la peur, à un tel point qu'ils crurent que c'était un fantôme, nous dit le texte biblique. Mais aussitôt, Jésus va leur parler. Il va leur dire, prenez courage, c'est moi. Prenez courage, c'est pas n'importe qui, c'est moi. Pierre va prendre la parole, il va lui dire, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille sur l'eau, que j'aille vers toi sur l'eau. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci de nous rappeler à travers ce passage ce matin que tu nous invites tous à aller vers toi. Peu importe les difficultés, peu importe les tempêtes, peu importe ce que nous vivons, Seigneur, tu nous rappelles que tu es toujours au milieu de nous, et Seigneur, que tu nous appelles à aller vers toi. Seigneur, ce matin, tu connais la mesure de notre foi. Tu sais les besoins de chacun, tous et chacun ici présents, sans exception. Seigneur, si certains ont besoin de voir leur foi être augmentée, Seigneur, je te prie de répondre à leurs prières. Si d'autres ont d'autres besoins, Seigneur, eh bien, je te prie de les visiter afin de répondre à ces besoins, qu'ils soient vraiment dans la joie et dans la paix, Seigneur, que tu nous as donnée. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Frères et sœurs, Jésus invite ici un homme ordinaire à prendre une décision pour lui faire vivre quelque chose d'extraordinaire. Il lui demande de quitter le bateau et de s'engager sur un terrain qu'il ne connaît pas et qui est peu sûr, celui de marcher sur l'eau. Frères et sœurs, il y a 12 personnes qui se trouvaient dans cette barque et un seul va oser la quitter. Pourquoi? Qu'est-ce qui pouvait empêcher, la première question que je me suis posée, moi, qu'est-ce qui pouvait empêcher les autres à passer à l'action et à quitter, finalement, aussi le bateau? Ils étaient bouleversés par la peur. C'est ce que le texte biblique nous dit, ils étaient bouleversés par la peur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les yeux fixés sur les éléments extérieurs plutôt que sur celui qui était capable de commander, même au vent et à la tempête, de se calmer. Chers amis, n'est-il pas exact de dire que le premier élément qui empêche la plupart du temps les gens de prendre une décision à quitter le bateau, c'est la peur? Et c'est la première arme que le malin va utiliser pour nous paralyser, la peur. Pourtant, le Seigneur, il nous connaît. Hein, et souvent, il dit « Prenez courage ». À plusieurs reprises, il dit « Prenez courage, n'ayez pas peur ». Il connaît nos faiblesses et il sait que ça ne prend pas grand-chose pour nous déstabiliser. Il sait que ça ne prend pas grand-chose pour nous amener dans la crainte, pour nous bouleverser dans la peur et nous paralyser afin de pouvoir participer à l'avancement de son œuvre et aussi répondre à son appel de le servir. Il y a différentes sortes de peurs. J'aimerais vous en partager quelques-unes qui sont toutes tirées de la parole de Dieu. D'abord, dans Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, ça peut être la peur de ne pas être à la hauteur. Souvent, on refuse de répondre à un appel parce qu'on ne se sent pas à la hauteur. Et ici, on parle de Moïse. Pensez à ce qu'il va dire lorsqu'il va, le Seigneur va l'inviter à quitter le métier de berger pour faire sortir son peuple d'Égypte. Tout le chapitre 4 nous parle de ce dialogue que Moïse a avec son Seigneur. Et la première objection qu'il va amener pour refuser de répondre à cet appel, il va dire que les Israélites ne l'écouteraient pas, ne le croiraient pas, que c'est le Seigneur qui l'envoyait. Il n'avait pas compris finalement que ce n'est pas lui qui les ferait sortir d'Égypte, mais que le Seigneur voulait simplement manifester sa puissance à travers son serviteur. Et souvent, on a peur. Pourquoi? Pourquoi on sort des objections pour ne pas s'investir? C'est parce qu'on oubliait que quand on est appelé à œuvrer au sein d'un ministère, ce ministère-là ne connaîtra pas la réussite ni le succès parce que c'est nous qui nous engageons, mais c'est parce que le Seigneur veut travailler à travers nous. C'est le Seigneur qui va manifester sa puissance à travers nous. Parce que peu importe le ministère dans lequel on s'investit, c'est trop pesant, c'est trop lourd pour un être humain. Et quand Dieu nous appelle, Dieu nous équipe, mais Dieu veut travailler à travers ses serviteurs, à travers ses servantes, parce qu'il veut manifester sa puissance. Et à travers Moïse, il appelle Moïse parce qu'il veut manifester sa puissance à travers Moïse. Moïse est un être humain. Moïse, c'est quelqu'un qui est sans force. Moïse, à lui tout seul, il est incapable de faire sortir le peuple de Dieu. Moïse, à lui tout seul, il est incapable de faire en sorte que la puissance de Dieu se manifeste. Et Dieu le choisit. Et Moïse va sortir une première objection. Ils vont dire, écoute, ils ne me croiront pas si j'y vais, puis ils ne m'écouteront pas si j'y vais. Mais oubliez que c'est Dieu qui l'envoyait. Dieu va faire deux miracles devant lui pour essayer de le rassurer. Il va lui demander de prendre un bâton, de le jeter par terre, et il va se transformer en un serpent. Il va ensuite lui demander de reprendre le bâton par la queue, en fait, le serpent par la queue, et le serpent va devenir un bâton. Le deuxième miracle, il va lui demander de mettre la main sur sa poitrine. Et quand il va retirer sa main, elle sera couverte de la lèpre. Il va lui demander de la remettre sur sa poitrine et elle va redevenir normale. Mais Moïse avait peur de ne pas être à la hauteur, frères et sœurs. Et il va dire au Seigneur, c'est pas possible. Exode chapitre 4, verset 10, ce n'est pas possible, je ne suis pas un orateur. Je ne l'ai jamais été, je ne le suis pas davantage depuis que tu me parles, Seigneur. J'ai beaucoup trop de difficultés à m'exprimer. Frères et sœurs, Moïse avait oublié que ce n'est pas lui qui parlerait au peuple d'Israël, mais que c'est Dieu qui parlerait à travers Moïse au peuple d'Israël. C'était les paroles de Dieu qu'il devait citer au peuple d'Israël. Dieu lui dirait tout ce qu'il avait à dire. Tout ce que Moïse avait besoin, c'était de l'aide, et qui mieux que Dieu pouvait l'aider à dire ce qu'il devait dire et à faire ce qu'il devait faire. Et frères et sœurs, c'est la même chose lorsque Dieu nous investit, nous appelle à un ministère. Frères et sœurs, si on est fidèle à la parole de Dieu, si on prend du temps avec notre Seigneur, le Seigneur, il va nous dire au moment voulu ce qu'on doit enseigner aux gens qu'il nous confie. Le Seigneur va nous dire au moment voulu ce qu'on doit faire, parce qu'il sait exactement avant même qu'il nous ait appelés ce à quoi il nous appelle à dire et ce à quoi il nous appelle, et le ministère qu'il nous appelle à faire. Tout ce que Dieu veut, frères et sœurs, c'est nous bénir, et c'est une grâce. C'est une grâce, frères et sœurs. On est indigne de servir le Seigneur. Indigne. Et dans sa grâce, Dieu nous trouve dignes en Jésus-Christ de pouvoir le servir. Et malheureusement, on est gêné, on est mal à l'aise, on a peur de ne pas être à la hauteur comme Moïse. Et souvent, on essaye de trouver toutes sortes de raisons, toutes sortes de prétextes pour ne pas répondre à l'appel. Mais je tiens à vous rappeler une chose, frères et sœurs, pour tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, vous avez tous reçu un don spirituel et vous avez tous reçu un appel sur votre vie. L'appel, il peut être dans l'Église, l'appel, il peut être à l'extérieur de l'Église, mais le don que vous avez reçu du Seigneur, il a été donné pour être au service, au bénéfice des saints dans l'Église de Jésus-Christ. Et Dieu peut étirer, peut étendre l'appel qu'il vous a donné en proclamant l'Évangile à l'extérieur, en touchant des cœurs à travers les dons qu'il vous a donnés. Et frères et sœurs, vous n'avez pas à avoir peur de ne pas être à la hauteur. C'est Dieu qui va parler à travers vous. C'est Dieu qui va agir à travers vous pour sa seule et unique gloire. Dites amen à ça ce matin. Et combien dans le ministère de Moïse, Dieu s'est glorifié. Combien il s'est glorifié. Et frères et sœurs, Dieu veut se glorifier à travers vous ce matin. J'espère que c'est une conviction dans votre cœur que Dieu veut se glorifier à travers vous. Si Dieu lui avait façonné une bouche dans le ventre de sa mère, il était capable d'utiliser la bouche de Moïse pour parler en son nom. Frères et sœurs, Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui ont beaucoup de capacités, puisque c'est par grâce, c'est lui par grâce qui les rend capables d'accomplir l'œuvre à laquelle il les appelle. C'est quand nous sommes faibles, nous dit la parole, que le Seigneur peut agir avec puissance dans nos vies et étendre sa protection sur nous. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 et 10. C'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts, puisqu'on n'a pas d'autre choix que de laisser Dieu agir dans nos vies. Il nous est facile de se concentrer sur nos faiblesses, mais si Dieu nous demande de faire quelque chose, nous pouvons être certains qu'il va nous aider à accomplir ce qu'il nous a demandé. Alors, il y a la peur de ne pas être à la hauteur, il y a la peur aussi d'échouer. Nombre, chapitre 13, verset 32. Nous ne pouvons pas attaquer ces gens, ils sont bien plus forts que nous. Le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter, crièrent les espions envoyés dans la terre promise. Ils étaient tellement impressionnés par la grandeur de la tâche qu'ils avaient oublié que c'est Dieu qui les avait libérés miraculeusement de l'emprise des Égyptiens. Frères et sœurs, quand on voit avec nos yeux d'être humain la tâche à laquelle Dieu nous appelle, ça sera toujours trop grand. Mais quand on sait que Dieu travaille avec nous, que Dieu agit à travers nous, que Dieu nous a déjà devancés dans la tâche à laquelle il nous appelle, quel poids tombe de nos épaules, frères et sœurs? Parce que ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur, il sait mieux que nous comment régler les problèmes et comment faire progresser son peuple et comment faire progresser son évangile. Et l'exemple, encore une fois, on nous dit que l'Ancien Testament nous a été donné à titre d'exemple. Et on n'a pas besoin de chercher des exemples dans le monde, mais dans l'Ancien Testament, on voit Dieu avait une œuvre bien précise à accomplir à travers son peuple, à partir du moment où il l'a libéré d'Égypte. Et on voit que Dieu n'a jamais été pris par surprise, peu importe ce qui est arrivé, Dieu n'a pas été pris par surprise. Dieu avait un plan bien précis, il savait où il devait conduire son peuple, et même s'il a fait faire des détours, il savait où il devait aller, et finalement le peuple s'est rendu. Et frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. Quand Dieu nous a libérés de l'Égypte, quand Dieu nous a sortis du monde, frères et sœurs, eh bien, il a un plan pour chacun de nous. Il a une route bien particulière à faire prendre à chacun de nous. Mais le but est le même, c'est de nous faire rentrer dans ce paradis merveilleux. C'est de nous faire régner sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux. Et frères et sœurs, Dieu n'est jamais pris au dépourvu à travers ce qui nous arrive dans la vie. Dieu a un plan bien précis. La Bible nous dit qu'il est omniscient. Omniscient. Il n'y a personne qui peut porter ce titre-là sur la terre. Seul Dieu, c'est des attributs de Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce sont trois attributs qui appartiennent à Dieu. Il n'y a personne qui peut s'approprier ces titres. Et Dieu n'est jamais pris par surprise. Dieu sait tout d'avance. Dieu connaît tout d'avance. Dieu voit tout d'avance. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Les espions, ils avaient oublié que c'est Dieu qui les avait conduits à travers ce désert dans la terre promise. Ces espions, ils avaient oublié que c'est Dieu qui les avait protégés. Ces espions, ils avaient oublié que c'est Dieu qui les avait nourris, qui avait accompli chacune des promesses qu'il leur avait faites. Et frères et sœurs, le même Dieu dans l'Ancien Testament qui a accompli des promesses envers son peuple, et ce même Dieu qui vous dit aujourd'hui, « Ce que j'ai promis pour votre vie, je vais l'accomplir. » Amen! Oh, aïe, ça me tue, ça, quand j'entends rien. Amen! Ouais! Ah! Ouais! Hey, on devrait être motivés! Surtout aujourd'hui, l'époque dans laquelle on vit, qu'est-ce que le monde a à nous offrir? Que du désespoir, que du découragement. Et le Seigneur, depuis que créé l'homme jusqu'à la fin de l'humanité, n'a que des paroles d'encouragement, des paroles d'exhortation, mais des paroles d'encouragement. On nous dit qu'il est le Dieu de toute consolation. As-tu de la peine ce matin? T'es-tu confié au Seigneur? As-tu confié ta peine au Seigneur? Il peut te consoler autrement que moi je peux te consoler. Et si tu n'as pas l'audace d'y aller tout de suite, va voir un frère ou une sœur. Va te confier à un frère ou une sœur. Peut-être qu'elle a vécu la même chose que toi. Et elle te dira comment Dieu l'a consolé dans sa misère. Comment Dieu l'a consolé dans sa peine. Frères et sœurs, on n'est pas embarqué dans n'importe quelle barque. On n'est pas embarqué dans n'importe quel bateau. On est dans celui du Seigneur Jésus, frères et sœurs. Et ici où cette barque, elle doit accoster. C'est encourageant. Et pourtant, au moment où ils auraient dû être découragés à faire un dernier pas de foi dans la terre promise, ils vont refuser. Après avoir vu Dieu accomplir tant de miracles, pourquoi ne pas continuer à lui faire confiance? Pourquoi refusaient-ils d'entrer dans la terre promise alors que c'était l'objectif ultime depuis le début, depuis le moment où ils avaient quitté le pays d'Égypte? La réponse, le texte nous le dit ici, ils étaient bouleversés par la peur. Bouleversés par la peur. Frères et sœurs, prenez un temps pour vous interroger. 15 secondes, parce que le temps file. Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un, membre de l'Église, de l'un, de répondre à l'appel du Seigneur? Quelle est la peur qui le travaille au point de refuser, de le paralyser, d'être bouleversé pour s'investir dans le ministère que le Seigneur l'appelle? Ça peut être un ministère de prière, ça peut être un ministère auprès des jeunes, ça peut être un ministère auprès des personnes âgées, il y a des homes ici autour, des maisons de repos. Ça peut être un ministère de nettoyage, il n'y a pas de saut métier avec le Seigneur. En autant que tout ce qu'on fait, qu'on le fasse pour le Seigneur, la bénédiction est là. Ça peut être de servir les déjeuners, ça peut être de laver la vaisselle. Qu'est-ce qui nous empêche? Quelle est la peur qui nous hante au point de nous empêcher de servir dans l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que c'est la peur de ne pas être à la hauteur? Est-ce qu'il nous arrive, nous aussi, est-ce qu'il ne nous arrive pas, nous aussi, d'agir quelquefois comme eux? Ne nous arrive-t-il pas de faire confiance à Dieu pour régler les petits problèmes qui surviennent dans nos vies? Mais lorsque nous devons faire face à de gros problèmes, il nous arrive parfois de douter de Dieu pour nous aider à trouver des solutions. Et pourtant, Dieu a déjà, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, l'apôtre Paul nous dit que les épreuves que Dieu permettent dans nos vies, eh bien, ne sont jamais au-delà de nos capacités. Et que les épreuves que nous vivons, Dieu a déjà trouvé le moyen de nous en sortir. Alors, pourquoi il nous le permet et pourquoi il nous le permet s'il a déjà trouvé le moyen? C'est qu'il veut simplement nous faire progresser dans notre foi et dans notre connaissance de la personne de Jésus-Christ. Quel Dieu gracieux! Quel Dieu merveilleux nous avons, frères et sœurs! Et combien souvent, parce que nous sommes paralysés par la peur, parce que nous ne pensons ne pas être à la hauteur, combien de belles bénédictions, de riches bénédictions, parce qu'il n'y a rien de pauvre du côté de Dieu, de riches bénédictions, nous ratons, nous manquons, nous laissons tomber, parce que nous sommes paralysés par la peur. Est-ce que Dieu n'a pas promis d'être toujours présent afin de réconforter la personne qui l'appelle? Dans Juges chapitre 6, verset 12-17, le Seigneur va réconforter Gédéon en lui disant, « Je serai avec toi, valeureux combattant. » Hey, le Seigneur, il a le don de nous encourager, non? Hein? Ah, les Israélites sont coincés avec les Madianites. À chaque fois qu'ils commencent à faire pousser une récolte, les Madianites, ils passent derrière, puis ils allument, ils mettent le feu. Et là, Gédéon, il est en train de casser des graines, il est caché. Il a peur, quoi. Il va essayer d'avoir un petit pot, là, hein? Un petit pot pour pouvoir se nourrir. Et le Seigneur apparaît à Gédéon. Salut, heureux héros, vaillant. Oh, mes amis, hein? Il va regarder à qui il parlait, quoi, hein? C'est quand même pas à moi que tu parles, Seigneur. Tu te gardes où je suis, là, je suis caché. Hey, le Seigneur, quand il s'adresse à nous, frères et sœurs, ce n'est pas pour nous démonir. Hein? Ici, quelle situation on est rendu, ici, à quel niveau on est, hein? C'est pour nous relever. Jamais pour nous écraser. On a déjà assez d'un ennemi qui cherche à nous écraser continuellement, à nous décourager. Le Seigneur est là pour nous relever. Il est là pour nous encourager. Il dit, écoute, tu n'es pas seulement mon enfant, mais je vais faire de toi un héros. Je vais faire de toi un héros qui va être capable de me donner toute la gloire qui me revient. Et quand vous regardez avec Gédéon, frères et sœurs, Gédéon va chercher lui aussi des excuses pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait peur, nous dit le texte en Juge. Et pourquoi avait-il peur? Parce qu'il regardait à lui-même et non pas à Dieu. parce qu'il regardait lui-même et non pas à Dieu. En d'autres mots, il se concentrait sur ses limites et sur ses faiblesses, oubliant que c'est Dieu qui lui donnerait la force qu'il avait besoin pour accomplir la tâche à laquelle il était appelé. Frères et sœurs, il faut être fou pour être pasteur aujourd'hui. Et si quelqu'un s'investit dans l'Église en tant que pasteur uniquement pour un salaire ou pour des conditions, il va lâcher très, très vite parce que ce n'est pas humain, ce n'est pas par des capacités humaines qu'on peut diriger l'Église de Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est un appel de Dieu. C'est un appel de Dieu. Alors, si je me regarde, frères et sœurs, si je fais comme Gédéon, je regarde à mes capacités, j'en ai pas de capacité. C'est le Seigneur qui me rend capable de pouvoir servir l'Église de Jésus-Christ. Je vous l'ai dit souvent, hein, j'aurais aimé mieux travailler derrière une machine, parce qu'une machine, quand ça ne va pas, elle ne peut pas te donner des tapes, elle ne peut pas te donner des coups de poing. Mais les êtres humains, c'est différent. Ils disent ce qu'ils pensent, et souvent, ce n'est pas nécessairement édifiant. Alors, des fois, c'est plus facile de travailler avec des machines que de travailler avec des êtres humains. Mais Dieu nous équipe parce que Dieu a appelé des gens, Dieu a appelé des hommes et des femmes pour la servir dans l'Église. Et ici, frères et sœurs, Gédéon, il est prêt à abandonner. Pourquoi? Il se regarde, il regarde ses limites, il regarde ses faiblesses, et il oublie que Dieu, c'est un Dieu illimité qui va servir, qui a des capacités illimitées, un Dieu qui n'a aucune faiblesse, c'est un Dieu qui est tout-puissant. Et là, ben, il essaie par tous les moyens de renoncer à l'appel que Dieu a sur sa vie. Il va placer des signes. Hein? On a le sel de la toison, une fois, deux fois, ça n'a pas fait, allez. Écoutez ce qu'il va dire. « Comment pourrais-je sauver Israël? » Hey, Seigneur, il ne demande pas de sauver Israël. L'avez-vous vu? Comment je vais sauver? Non, ce n'est pas toi qui vas sauver Israël. Moi, je vais sauver Israël à travers toi. Voyez-vous toute la différence, comment on pense? Et comment ça se sent beaucoup plus léger? C'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Allez, porte-moi, Seigneur, porte-moi. Prends les poids, Seigneur, prends le poids. Il dit, comment pourrais-je sauver et délivrer Israël? Mon clan est le plus faible et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Alors le Seigneur déclara, je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. Il lui suffisait de recommander son œuvre au Seigneur et ses projets réussiraient. Frères et sœurs, on a une belle promesse. Le Seigneur, il promet qu'il va être avec Gédéon. Dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus nous dit, sachez-le. Je serai tous les jours avec vous et ça jusqu'à la fin du monde. Ah, quelle parole d'encouragement, frères et sœurs. Le Dieu qui parle à Gédéon, il nous ramène la même chose dans Matthieu chapitre 28. Je vais être avec vous. Dans l'œuvre que je vous appelle, je vais être avec vous. Dans votre marche chrétienne, je vais être avec vous. Dans votre progression sur le chemin de la sanctification, je vais être avec vous. Quel Dieu de grâce, quel Dieu merveilleux! Il ne s'est pas contenté de nous sauver et se croiser les bras en attendant qu'il revienne. Il est avec nous à tous les jours, il nous l'a promis. Vous dites amen à ça! Frères et sœurs, comme Gédéon, nous sommes appelés à servir Dieu dans des domaines bien spécifiques. Et malgré le fait que Dieu nous promet qu'il sera toujours avec nous, quand nous parlerons et qu'il nous indiquera ce que nous devons dire, il nous arrive de douter qu'il agira avec puissance et qu'il sera toujours présent dans l'œuvre à laquelle il nous a appelés, au point de chercher des excuses pour ne pas répondre à son appel. Frères et sœurs, est-ce qu'on a une bonne excuse ce matin pour ne pas répondre à l'appel du Seigneur? Est-il normal qu'une minorité dans l'Église puisse se lever pour servir le Seigneur au point de s'user, au point d'être épuisé? Frères et sœurs, est-ce que vous pensez que l'appel du Seigneur dans l'Église est réservé à des privilégiés? Alors, c'est que vous doutez peut-être que Dieu vous aime moins que les frères et sœurs qui s'investissent dans l'Église et que vous avez oublié la parole du Seigneur Jésus qui dit que Dieu nous aime autant qu'il aimait le Seigneur. Nous sommes tous appelés à un niveau quelconque à servir le Seigneur dans l'Église, à être des encourageurs non seulement avec notre bouche, mais aussi avec nos mains et aussi avec nos pieds. Parce que Dieu veut se glorifier à travers chacun de ses enfants dans l'Église, pas juste à travers les membres du conseil, pas juste à travers les responsables de ministère, à travers chacun des membres de l'Église, Dieu veut se glorifier, que ce soit dans les travaux manuels, que ce soit peu importe où c'est, même à l'accueil, c'est important, mais Dieu veut se glorifier. C'est pas intéressant de voir, on est considéré comme une des églises ici qui a un des plus bel accueils dans la région de Liège. Mais c'est attirant quand on voit des gens qui, on ouvre la porte de l'Église et on voit ce beau sourire qui manifeste la joie et la paix qu'on a reçue de Jésus-Christ. C'est invitant de rentrer dans l'Église. Et quand on voit les frères et sœurs qui fraternisent ensemble, après le culte, qui vont voir les nouvelles personnes qui sont venues pour la première fois, qui viennent pour la première fois, c'est encourageant de voir, oh, c'est donc bien différent du monde. Je me souviens de Marie-Jeanne. Elle avait dit à Émilie, ton pasteur, il a besoin de rester loin. Pourquoi? Parce qu'elle était ébahie de voir ce qui se passait dans notre Église. Écoutez, cet accueil, cette relation qu'on a ensemble, écoutez, il faut aller dans le monde, quoi. Il faut baigner dans le monde pendant quelques mois pour s'apercevoir que ça n'existe pas, que c'est souvent de l'hypocrisie. Mais nous, c'est sincère. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui règne dans nos vies, frères et sœurs. Pour être en mesure de voir Dieu agir avec puissance et accomplir des miracles, nous avons besoin d'accepter de quitter la barque ou de quitter le bateau. C'est-à-dire ce qui fait notre sécurité, notre confort, et c'est ce que Pierre a décidé de faire. Parce que vous ne pouvez pas vous promener sur l'eau si vous n'avez pas pris la décision de quitter le bateau. Imaginez la violence de la tempête ici dans le texte. Hein? La hauteur des vagues, la force du vent, l'obscurité de la nuit. Le texte biblique nous dit tard dans la nuit, vers 3-4 heures du matin, tard dans la nuit. C'est déjà assez difficile d'essayer de marcher sur l'eau lorsque la mer est calme. Mais imaginez maintenant, essayer de marcher sur l'eau lorsque les vagues se brisent les unes contre les autres, lorsque le vent souffle violemment et qu'il est 3 heures de la nuit, et pour couronner le tout, vous avez peur. C'est dans ces conditions que Pierre va quitter. C'est ce que le texte nous dit ici, que Pierre va quitter le bateau et faire une promenade sur l'eau. Ceux qui ont décidé de quitter le bateau, frères et sœurs, c'est parce qu'ils ont décidé de faire confiance à Dieu. Mettez-vous à la place de Pierre ici. Vous avez devant vous le Seigneur Jésus qui vous invite à expérimenter l'aventure de votre vie. Et en même temps, vous avez une peur bleue de ce qui peut vous arriver. Que choisiriez-vous? Marcher sur l'eau ou vous voyez ces vagues qui déferlent devant vous? Et ce vent qui vient secouer votre bateau ou demeurer dans le bateau. Cependant, frères et sœurs, il y a une chose qui est certaine. Si vous décidez de rester dans votre bateau, il est probablement certain que vous ne marcherez pas sur l'eau. Cela fait partie des lois immuables de la nature. C'est pourquoi, si vous voulez marcher sur l'eau, il faut que vous acceptiez, de sortir de votre bateau. Moi, je trouve que c'est une belle image. Puis-je vous poser une question ce matin? Êtes-vous en train de marcher sur l'eau ou vous trouvez-vous toujours dans votre bateau? Parce que finalement, le bateau, il est tout ce que représente pour vous la sécurité, la vie et le confort en dehors de ce que Dieu vous offre. Parce que finalement, le bateau, il est tout ce qui est une tentation d'y placer votre confiance, spécialement lorsque votre vie devient agitée. Le bateau, frères et sœurs, il représente aussi tout ce qui constitue un frein à la merveilleuse aventure de suivre Jésus jusqu'au bout. Désirez-vous savoir à quoi correspond notre bateau, votre bateau? Ce que vous craignez le plus va vous le révéler, frères et sœurs. Ce que vous craignez le plus de perdre va vous le révéler. Posez-vous seulement la question suivante. Qu'est-ce qui suscite le plus en vous le sentiment de peur lorsque vous pensez à quitter le bateau et à faire un pas de foi pour le Seigneur Jésus-Christ? Pour Maurice, son bateau, c'est sa profession. Il est entrepreneur en bâtiment depuis 55 ans. Il approche la soixantaine. Pendant toute sa vie, il était rongé par la pensée que Dieu l'appelait à travailler pour lui. Maurice, il a apaisé sa conscience en donnant beaucoup d'argent à droite et à gauche et en accomplissant de bonnes œuvres pour se racheter. Mais encore aujourd'hui, Maurice, il n'arrive pas à se débarrasser de ce regret qui habite son cœur d'avoir manqué l'appel que Dieu avait sur sa vie. Il a peur maintenant qu'il soit trop tard. Si je pouvais le rencontrer, je lui dirais qu'il n'est jamais trop tard pour servir le Seigneur. Pour Chantal, son bateau, c'est la relation qu'elle vit depuis des années avec un homme dont l'engagement envers elle est pour le moins qu'on puisse dire ambigu. Elle n'est pas certaine s'il est chrétien, et même s'il lui écrit des lettres dans lesquelles il souligne ses intentions, sans jamais lui faire part de ses sentiments, il évite de parler de leur avenir. Mais en ce qui la concerne, elle ne cherche pas à découvrir ses véritables sentiments. Elle a plutôt peur de découvrir la vérité, parce qu'elle n'est pas prête à faire face à une séparation. Son bateau risque de couler, mais elle est tellement hantée par la peur qu'elle ne peut pas arriver à renoncer à quitter son bateau. Le bateau de Charles, il passe inaperçu. C'est un véritable sous-marin, parce qu'il s'adonne à la pornographie. Il avoue n'avoir jamais aucune dépendance vis-à-vis de ce genre de films, puisqu'il s'agit souvent de films pour adultes, qu'il visionne alors lorsqu'il est en affaires ou en voyage d'affaires ou lorsqu'il surfe sur Internet. Mais personne ne le sait. Et il a peur d'admettre cette dépendance. Il est effrayé à l'idée de demander de l'aide, de peur d'être jugé. Charles, son secret est en train de le tuer, mais c'est son bateau et il ne veut pas le quitter. Pour d'autres, leur bateau, c'est réussir dans la vie, au risque d'y laisser leur âme. Marc chapitre 10, verset 21, c'était le cas du jeune homme riche dans la Bible. Jésus va lui demander de quitter son bateau. Il va le regarder, il va lui dire avec amour, « Il ne te manque qu'une chose, va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé par cette parole, nous dit le texte biblique, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Parce que c'est dans ces choses qu'il y trouvait sa sécurité. Son bateau était trop beau, c'était un bateau de croisière. Il le gouvernait tellement bien, mais il y était tellement attaché, qu'il était incapable de s'en détacher et de l'abandonner. Je me demande s'il arrivait à la fin de sa vie, au moment où il allait mourir, s'il n'a pas réfléchi parfois à cette rencontre qu'il avait faite avec Jésus, ce charpentier de Nazareth, alors qu'il se demandait ce qu'il ferait maintenant, avant de mourir avec tout cet argent qu'il avait accumulé dans ses coffres. Je ne sais pas s'il s'est rappelé à ce moment-là qu'un jour, il avait dit à Jésus qu'il avait appelé à marcher sur l'eau pour le faire entrer dans le royaume de Dieu. « Je ne suis pas prêt à quitter mon bateau. » Mes amis, êtes-vous toujours dans votre bateau ce matin? Y a-t-il un domaine de votre vie qui vous empêche de faire confiance à Dieu? La peur vous révélera quel est votre bateau. Si c'est le cas, et l'abandonner représentera alors peut-être la décision la plus difficile que vous ayez à prendre dans votre vie, mais aussi une des décisions les plus bénissantes pour vous. Un des versets les plus difficiles pour le chrétien à mettre en pratique après sa conversion, c'est celui suivant. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. C'est un des versets les plus difficiles à mettre en pratique pour le chrétien. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il mette toutes ses ambitions personnelles de côté, qu'il porte sa croix, qu'il soit prêt à être persécuté comme moi j'ai été persécuté, à être rejeté comme moi j'ai été rejeté, et qu'il me suive, qu'il marche sur le même chemin sur lequel j'ai marché. Et il verra mon Père le bénir comme j'ai été béni, dit Jésus. Frères et sœurs, si vous désirez marcher sur l'eau, en d'autres mots, si vous voulez voir le Seigneur accomplir des miracles dans votre vie, parce que c'est ce que Pierre a vu, quand il est sorti de l'eau. Il a vu Jésus accomplir un miracle, hein? Il n'a pas enfoncé. C'est lui. C'est son manque de foi qui l'a fait enfoncer. Mais Jésus a accompli un miracle. Il a vécu ce miracle. Ceux qui ne sont pas sortis de la barque, ils ont vu le miracle, mais ils n'ont pas goûté au miracle. Quelle est toute la différence? Celui qui décide de sortir du bateau, il va vivre le miracle. Mais ceux qui décident de rester dans le bateau, ils ne sont que des spectateurs de la puissance que Dieu manifeste. Et Dieu ne veut pas faire de ses enfants des spectateurs, il veut faire des participants. Pierre va passer, si le texte biblique nous dit que Pierre va passer un pied par-dessus bord, il va sortir de la barque, il va commencer à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Quelle promenade, n'est-ce pas? Et puis soudainement, une pensée va traverser l'esprit de Pierre, il remarque le vent. C'est intéressant, hein, le texte biblique, comment il dit ça? Il y avait pourtant du vent avant, hein, avant qu'il sorte de la barque. Hein. La tempête, elle était encore là, hein, avant qu'il sorte de la barque. Les vagues, elles menaçaient de les envahir avant qu'il sorte de la barque. Hein. Et là, le texte biblique nous dit, il remarque le vent. Face à ça, Pierre, il vient de prendre conscience qu'il marche sur l'eau, au beau milieu d'une tempête, sans rien de solide sous ses pieds. Il est terrifié. Pourtant, rien n'avait changé. Le vent n'aurait pas dû l'effrayer puisqu'il ventait avant qu'il décide de sortir de la barque. Que s'est-il donc passé? C'est que Pierre avait détourné son regard de celui qui est le point de repère de sa foi, son sauveur bien-aimé, Jésus-Christ, pour se concentrer sur ce qui lui faisait peur. Le vent, la tempête, les vagues. Et frères et sœurs, souvent, c'est ce qui nous empêche de progresser dans notre foi. On s'arrête, c'est nos peurs qui nous arrêtent. Parce qu'on garde nos yeux, on détourne notre regard de celui qui peut chasser nos craintes, chasser nos peurs, et on écoute des choses, on voit des choses qui nous font peur et on s'arrête à ces choses-là. Pierre a fixé ses yeux sur les vagues. Il a tendu l'oreille au vent plutôt que de garder les yeux fixés sur celui qu'il avait invité à sortir de la barque. Il avait maintenant les yeux fixés sur la puissance des vagues et sur la force du vent, au point d'oublier la puissance de celui qui lui avait demandé de quitter le bateau. Résultat, verset 30, il eut peur. Frères et sœurs, quand on oublie ce que Jésus a accompli pour nous dans le passé, ce que Jésus fait pour nous dans le présent, et ce que Jésus veut faire pour nous dans le futur, et qu'on s'arrête à tout ce qu'on entend, à tout le bruit qui est autour de nous, frères et sœurs, on a peur, on est humain, on est comme Pierre, on n'a pas à juger Pierre ce matin, on est comme Pierre. Avant de juger trop sévèrement Pierre parce qu'il a détourné son regard de Jésus, il est bon de se rappeler, frères et sœurs, qu'il y avait 11 autres personnes dans la barque qui étaient témoins de la scène. Avez-vous remarqué ce matin que dans Matthieu chapitre 14, ce n'est pas l'histoire de Barthélemy? Avez-vous remarqué que dans Matthieu chapitre 14, ce n'est pas l'histoire de Matthieu marchant sur l'eau? Avez-vous remarqué dans Matthieu chapitre 14 que ce n'est pas l'histoire de Jacques marchant sur l'eau? Parce que Jacques, Barthélemy et tous les autres sont restés dans la barque. C'est l'histoire de Pierre se promenant sur l'eau parce qu'il est le seul qui a eu le courage de sortir du bateau. Peut-être que parmi les 11, certains voulaient quitter le bateau. Peut-être qu'ils auraient quitté la barque si Pierre était resté suffisamment longtemps à marcher sur l'eau. Mais donnons quand même crédit à Pierre ici, parce qu'il a osé demander. Et malgré la peur qu'il avait dans son cœur, il a quand même quitté le bateau, alors que tous les autres sont restés dans le bateau. Voilà pourquoi le nom de Pierre apparaît dans ce récit que les noms des 11 autres ne sont pas mentionnés. C'est mon point de vue, hein? Nous avons tous un jour, l'autre agit comme Pierre. Nous avons tous aussi remarqué le vent. Nous avons commencé à œuvrer dans un ministère ou dans un nouveau travail, le cœur rempli d'espoir. Tout était bleu à l'horizon jusqu'à ce que des nuages commencent à apparaître, annonçant qu'une tempête était sur le point de se lever. Et les nuages correspondent en fait à nos projets qui n'avancent pas aussi vite que nous l'aurions voulu. La tempête, elle correspond à l'opposition que nous rencontrons. Le bruit correspond au bruit, le vent correspond au bruit que les gens font. Les gens qui murmurent, des gens qui critiquent. Parce qu'on œuvre dans le ministère à laquelle Dieu nous a appelés, dans l'appel à laquelle Dieu nous a donné. Comme les Israélites l'ont fait avec Moïse. Si vous lisez le récit de la traversée du désert des Israélites, eh bien, le mot murmure et critique, c'est un des mots qui apparaît souvent, continuellement, régulièrement dans cette traversée du désert avec les Israélites. Le vent, il correspond également au monde dans lequel nous vivons. Il est tellement agité. Et pourtant, c'est à cause du vent que certains décident de ne jamais quitter le bateau. Aussitôt que Pierre commença à s'enfoncer, il s'écria, verset 30-31, « Seigneur, sauve-moi! » Et aussitôt, qu'est-ce que le texte biblique nous dit? Aussitôt, le mot c'est aussitôt. Aussitôt, Jésus va étendre la main, le saisir et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ce qui est intéressant dans le texte grec, ce n'est pas « homme de peu de foi ». C'est le nom qu'il donne à Pierre. Petite foi. Comme les Indiens, hein? Sitting Bull, puis Faucon Doré, puis ainsi de suite. Vous savez les noms que les Indiens se donnent, hein? C'est petite foi. Mais ce n'est pas fait de façon méprisante. Pierre, petite foi. Il y a Jacques Hudon, puis il y a Pierre, petite foi. Et il y a Jacques, petite foi, qui n'est pas plus grande sa foi que celle de Pierre. Mais c'est Pierre, petite foi. C'est intéressant. Mais on doit le traduire différemment pour que ce soit lisible en français. Mais dans le texte grec, c'est Pierre, petite foi. Avant de critiquer Pierre d'avoir eu que peu de foi, il est bon de se rappeler qu'avoir peu de foi, c'est toujours mieux que de ne pas avoir de foi du tout. Parce que nous pouvons nous demander si les 11 autres qui étaient restés dans la barque avaient la foi. Lorsque Jésus dit à ses disciples qu'ils avaient peu de foi, il ne leur réprimandait pas d'avoir tenté quelque chose qui était d'un niveau trop élevé pour eux, mais d'avoir manqué de confiance en lui, qui peut tout. Frères et sœurs, voyez-vous la différence? Jésus n'est pas en train de dire à Pierre, ici, tu aurais dû rester dans ta barque parce que ta foi fait vraiment pitié. Il n'est pas non plus en train de réprimander Pierre parce qu'il avait quitté la barque. Au contraire, Jésus est en train de dire à Pierre, si tu avais gardé les yeux sur moi, tu aurais pu traverser l'océan Atlantique si tu avais voulu. Frères et sœurs, attendez-vous, si vous acceptez de sortir du bateau, non seulement de pouvoir marcher sur l'eau, c'est-à-dire voir des miracles, voir Dieu faire accomplir des miracles à travers vous dans vos vies, mais à l'occasion de vous enfoncer dans l'eau, parce que cela fait aussi partie de l'apprentissage de la vie chrétienne, frères et sœurs. Cependant, il y a une chose que vous pouvez être certain, c'est que Jésus sera toujours là pour vous tendre la main. Il est de même pour tout pécheur qui réalise en entendant l'Évangile, qui s'enfonce de plus en plus dans son péché. Un pécheur qui entend l'Évangile, qui est conscient de son péché et qui sent qu'il est convaincu qu'il est perdu si Dieu n'intervient pas. Et lorsqu'il se tourne vers le Seigneur comme Pierre, « Seigneur, sauve-moi. » En d'autres mots, « Seigneur, aie pitié de moi, sauve-moi. » Alors Jésus étend la main, saisit la sienne et le sauve d'une mort certaine, c'est-à-dire d'une mort éternelle. La croix est là pour nous le rappeler. Frères et sœurs, il y a certains dangers à quitter la barque, mais vous courez autant de risques de rester dedans. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui ne garantit pas qu'un jour, la barque ne finira pas par couler. Il n'y a rien qui comporte aucun risque. Mes amis, quelle est votre barque ce matin? Y a-t-il un domaine de votre vie où vous éprouvez un sentiment de peur ou de confort qui vous empêcherait de faire confiance à Dieu ce matin? Dieu vous invite à quitter cette barque, si c'est le cas, et de marcher vers le Seigneur Jésus, comme Pierre l'a fait. Où en êtes-vous dans ces derniers temps, dans votre relation avec le Seigneur Jésus, frères et sœurs? Êtes-vous bien blotti dans votre barque, en menant un train de vie routinier tout en comptant sur ce que vous avez? Avez-vous un pied dans la barque et un pied à l'extérieur de la barque? Ou bien est-ce que vous êtes en train de vous promener sur l'eau et que vous aimez cette sensation parce que vous savez que Jésus s'y trouve et qu'au moindre faux pas, il vous tendra la main pour vous secourir? Que cette promenade sur l'eau ce matin soit une image pour nous de ce que nous pouvons faire avec l'aide de Dieu, avec le peu de foi que nous avons. Aujourd'hui encore, Dieu appelle des gens ordinaires, ayant peu de foi, à s'engager dans une action, celle de quitter leur barque, parce que c'est là et seulement là que notre foi peut progresser, parce que nous pouvons voir Dieu faire des miracles et réaliser l'impossible dans chacune de nos vies. Et lorsque notre foi est défaillante, que nous prenons peur, en faisant appel au Seigneur Jésus, nous pouvons être assurés qu'il sera toujours là pour nous tendre la main. Frères et sœurs, je ne vous dirai pas de suivre mon exemple ce matin, mais un jour, Jésus a quitté la barque céleste pour venir se promener sur la terre, pour faire du bien aux pécheurs, pour faire du bien aux malades, pour soigner, guérir des aveugles, permettre à des sourds d'entendre, ressusciter des morts. Il est venu se promener sur cette grande poubelle qui était la terre. Il a osé quitter la barque céleste pour venir parler aux pécheurs que nous sommes. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il savait que le Père céleste accomplirait des choses extraordinaires à travers son Fils. Que Dieu attirerait à lui des hommes et des femmes qui, en entendant l'Évangile, eh bien, donneraient leur vie, sortiraient de leur barque de confort, de leur barque d'insécurité, pour entrer dans celle que Dieu leur offre. Et cette barque, c'est une maison aussi. Ça devient une maison, c'est la maison du Seigneur. Et non seulement Dieu nous permet d'habiter dans sa maison, mais il fait de notre cœur son temple. Quel beau miracle, Jésus! Enfin, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, quitter ce bateau céleste, il est venu sur la terre, non pas pour être servi, nous pas dit la parole, mais pour servir. Et en retour, il demande à ses enfants aussi de quitter notre barque, non pas pour être servi, mais pour servir. Et on le verra à chaque instant dans les moments difficiles, nous tendre la main et marcher avec nous pour continuer à nous faire avancer sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter un cantique. Parle-nous.